Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, les Russes sont-ils les meilleurs stratèges? 30 ans après la chute du mur de Berlin et ce qui a pu être considéré par la Russie soviétique comme une humiliation, l'accord d'arrêt des combats au nord de la Syrie, signé entre la Russie et la Turquie, ainsi que le sommet entre la Russie et les pays africains à Sotchi, ont poussé nombre de commentateurs à considérer que nous assistions là à une amplification du rôle de la Russie dans la diplomatie mondiale. Des déclarations récentes d'Emmanuel Macron, également à l'hebdomadaire The Economist, considérant l'OTAN en état de mort cérébrale, ainsi que sa main tendue à la Russie, s'ajoute à cette idée d'une diplomatie gagnante de Vladimir Poutine. Nous en discuterons ce soir avec Anne Niva, elle est journaliste, grand reporter, auteur du « Un continent derrière Poutine » au Seuil, c'était l'année dernière, prix Albert Londres 2000. Benoît Vidkin est également avec nous au téléphone depuis Moscou, il est correspondant du Monde à Moscou, et il est prix Albert Londres 2019, et on le félicite. Jean de Geniasti est donc diplomate et ancien ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013, et Maxime Audinet est également avec nous, il est chercheur au Centre Russie Nouveaux États Indépendants à Free, et il termine sa thèse pour le printemps prochain sur le soft power russe à l'université de Nanterre.
À partir de 12h, le 23 octobre 2019, les unités de la police militaire russe patrouilleront sur le territoire de la frontière syro-turque depuis la partie syrienne située à l'extérieur de la zone de l'opération Source de Paix. Ils faciliteront le retrait des YPG et de leurs armes dans un périmètre de 30 km de part et d'autre de la frontière turco-syrienne. Le retrait doit être terminé dans les 150 heures suivant le 23 octobre. Les deux parties confirment leur intention de maintenir l'unité politique et territoriale de la Syrie et d'assurer la sécurité nationale de la Turquie.
Pour tous ceux qui suivent la politique internationale et qui connaissent cette figure, il s'agissait bien sûr de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. À l'issue de la rencontre entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, organisée à Sotchi le 22 octobre dernier, on y disait donc effectivement que les combats allaient s'arrêter au nord de la Syrie et que c'était donc une façon pour la Russie de se repositionner encore un peu plus dans ce Proche et ce Moyen-Orient. Bonsoir, Anne Niva.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez considéré, vous aussi, que ces petits faits séparés les uns des autres, ce sommet de Sotchi avec les pays africains, la position de Vladimir Poutine et de la diplomatie soviétique russe, pardon.
Attention.
Je me trompe toujours, c'est le 31e anniversaire de la chute du mur de Berlin.
Ça fait 30 ans qu'on est dans la Russie post-soviétique.
Évidemment, vous avez raison. Donc, que tout cela était des signes, justement, de la place croissante dans la diplomatie mondiale de la Russie.
Bon, je ne sais pas, les journalistes que nous sommes aimons bien les clarifications comme cela, mais c'est peut-être un peu schématique. Ce qui est intéressant, je pense, de noter, c'est que la Russie veut avoir sa place, bien sûr, sur la scène internationale, et qu'elle utilise absolument tout ce qui est en sa possible pour le faire. Donc, et Vladimir Poutine, d'une certaine façon, excelle en cet art. Et d'autant plus, je dirais, que domestiquement parlant, c'est-à-dire en interne, il a des problèmes. En fait, la situation, je crois qu'on va l'évoquer, est assez compliquée par rapport à sa propre succession. Il y a beaucoup de tensions entre les élites en Russie et également dans le peuple russe. Et avoir certains succès médiatiques, en tout cas symboliques, sur le plan international, c'est évidemment très intéressant. Ceci dit, par exemple, le conflit syrien, qui nous occupe beaucoup ici, eh bien préoccupe assez peu les Russes. Ils étaient davantage intéressés, et là presque, je dirais, comme un seul homme derrière Vladimir Poutine, pour ce qui concernait, qui concerne encore, la Crimée.
Bien sûr.
Ça n'a rien à voir.
Et le Donbass, bien sûr, tout cela.
Et le Donbass, voilà. Donc tout ça est à géométrie variable. Pour moi, c'est évidemment que n'importe quel pays veut exister sur la scène internationale, et que la Russie et Vladimir Poutine, qui la dirige, évidemment, et de cela.
Puisque nous avons la chance d'avoir deux prix Albert Londres dans cette émission, Benoît Vidkin, depuis Moscou, je rappelle que vous êtes correspondant du Monde, que pensez-vous justement de cette proposition de savoir si, au bout du compte, effectivement, la Russie place ses pions à la fois au Proche et au Moyen-Orient, mais également en Afrique ?
Moi, je serais un poil moins prudent qu'à Nineveh. C'est-à-dire que lui, je pense que le retour russe sur le devant de la scène, il est acté, il est réussi. Après, je pense qu'il faut vraiment séparer ce dossier syrien du reste, pas uniquement pour la raison que disait Anne, à savoir sa réception dans l'opinion publique, mais aussi parce qu'il est mené de façon complètement différente. C'est-à-dire que là, on a le succès le plus probant. Il n'est pas encore complet, c'est-à-dire que les Russes en Syrie ont montré qu'ils étaient incontournables, puis ils ont montré d'abord leur force de frappe militaire, puis qu'ils étaient incontournables. Ils ont réussi à obtenir un morceau de paix, on va dire, dans le Nord après cette opération turque. Ils n'ont pas encore remporté l'équation politique, c'est-à-dire d'obtenir une paix à long terme. Et en revanche, et je serai bref, on les détaillera peut-être les différents dossiers, mais si on regarde les autres dossiers, alors Afrique en un mot, il y a un énorme effet de loupe, c'est-à-dire que le retour, il est quand même très très modéré. Ukraine, là c'est différent, c'est pas un effet de loupe, mais j'estime, et je suis pas le seul, que le succès est plus que limité. On est dans l'ordre du verre à moitié vide, à moitié plein, c'est-à-dire que la réussite russe, elle est quand même assez modérée, les inconvénients de ces opérations ukrainiennes sont gigantesques, donc oui, le retour russe, il est évident, il y a un savoir-faire russe qu'on connaissait et qui est à nouveau bien visible, ensuite il n'est pas le même partout.
Jean de Glignasti, je rappelle que vous avez été ambassadeur de France à Moscou. Vous êtes auteur de La diplomatie au péril des valeurs aux éditions de l'Inventeur. Pourquoi nous avons eu tout faux avec Trump, Poutine et d'autres, justement. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ce regard porté par les Français sur cette diplomatie russe et sur peut-être soit une surélévation, soit au contraire un regard un peu moindre sur la figure de Poutine, mais également sur ses actions à l'international?
Ouais, il y a les deux. Je crois qu'on est sensible à l'événementiel, comme toutes les sociétés occidentales, qui vivent un peu au rythme des médias. On n'a pas vu la continuité. Dans la réalité, la Russie est revenue à son statut, j'allais dire, séculaire, pour ne pas dire millénaire, c'est-à-dire une puissance moyenne, mais qui a une diplomatie permanente.
Très active.
Très active. Très active, elle est obligée d'ailleurs d'en avoir une, puisqu'elle n'a pas de frontières naturelles, qu'elle a toujours dû se défendre contre les invasions. Et donc, en fait, c'est cette permanence qui est frappante, et c'est ce qui fait d'ailleurs beaucoup plus que l'habileté événementielle, le succès de la diplomatie russe. La poussée vers les mers chaudes. Je prends
ça, c'est ce qu'on dit souvent, effectivement, l'accès aux mers du Sud, ça fait vraiment partie, ça n'est pas simplement une idée reçue que de dire que c'est encore actif, cette vision.
Bien sûr. Comme d'ailleurs la présence dans la Baltique, qui date uniquement le Grand, et qui pour lequel la Russie a tout fait pour préserver ses accès.
La projection de la puissance.
La projection de la puissance, ça dépend ce qu'on appelle projection de la puissance. Pas au sens, j'allais dire, français ou américain du terme. Par exemple, quand on regarde le budget militaire russe, il n'y a pas de force de projection maritime. Par exemple, il y a très peu de porte-avions, très peu de gros bateaux. C'est plutôt une force armée défensive. Mais je reviens, une force navale défensive. Sur la Syrie, dès le début, la Russie a dit à ses partenaires occidentaux qu'elle ferait tout pour sauver le régime irakien, quel qu'il soit.
Le régime syrien, pardon.
Mais justement, si je pensais à l'Irak, c'est parce que c'était l'exemple qui était cité. La Libye aussi, d'ailleurs. Donc, quel que soit le prix, la Russie a dit, le meilleur rempart contre l'État islamique, c'est le maintien
du régime
de Bachar.
C'est la stabilité, mais comme en Russie, finalement.
Voilà. Mais ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que quand on regarde, effectivement, la naissance de Daesh après, ou du Maghreb, dans le Maghreb islamique, ou Daesh en Syrie ou en Irak, c'est effectivement la destruction d'États qui étaient certes des États très coupables, enfin qui avaient accompli beaucoup d'horreurs, mais qui en même temps étaient une garantie de stabilité. Et je pense que cette boussole a servi aux Russes pour leur succès.
Et Maxime Audinet, vous avez fait votre thèse que vous soutiendrez d'ici 6 mois maintenant sur le soft power justement de cette même Russie. Il y a donc cette façon de se projeter militairement dans des pays lointains, mais également une stratégie, mais la stratégie est aussi partagée par beaucoup d'autres très grandes puissances, d'être présent dans le domaine de la diplomatie culturelle ou encore des télévisions, par exemple, comme RT ou comme Spoutnik.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de la Russie, c'est que elle a une interprétation particulière du soft power qui est sans doute propre à la plupart des pays autoritaires qui ont, il y a une sorte de décalage qu'on peut observer dans ce concept qui a été inventé pour une démocratie libérale qui est d'abord les États-Unis et qui ensuite, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette ambiguïté, elle est de cet ordre. C'est-à-dire que d'une part, au début, surtout, la Russie considère qu'elle peut utiliser le soft power comme un moyen de rétablir sa réputation parallèlement à ce retour de sa puissance. Et en même temps, le soft power est très clairement perçu par les élites russes et par Vladimir Poutine en premier lieu comme un instrument subversif qui est l'arme insidieuse de l'Occident via des révolutions de couleur, via des politiques de changement de régime dans, par exemple, dans l'espace post-soviétique.
Donc pourquoi ne pas utiliser le même outil d'une certaine façon?
Voilà. Et du coup, ça se traduit en fait par je crois deux éléments très structurants en fait de ce soft power, c'est que d'abord le soft power est perçu comme un instrument qui est utilisé dans un cadre de compétition, ce qui n'était pas du tout le cas dans les théories initiales de Joseph Nye. Et puis, deuxièmement, la Russie, et c'est particulièrement valable pour les médias, marginalise en fait le principe d'attraction qui était le principe central du soft power et va se tourner davantage dans une logique de discréditation en fait de certaines
critiques.
De critique, de dénigrement, en particulier de ce qu'on pourrait appeler l'Occident libéral, la puissance américaine, plutôt que de finalement renforcer l'attractivité de la Russie à l'étranger.
Non, mais en amont, ce que je voudrais dire aussi, c'est que depuis quelques années, Vladimir Poutine, qui est là depuis très longtemps au pouvoir, imite souvent ce qui se fait aux États-Unis. Et là, on vient de le dire pour ce qui est du soft power, c'est une évidence. Hein. C'est en regardant Fox News que Poutine s'est rendu compte que effectivement, eux aussi pouvaient avoir une chaîne qui avait un point de vue et que ça soit considéré comme une façon d'être puissant. Quand je couvrais la guerre en Tchétchénie en 2000, je me rappelle très bien le moment où on s'est rendu compte, nous les journalistes, à quel point la façon de faire russe imitait la façon de faire américaine dans le sens militaire, c'est-à-dire d'inviter des journalistes à venir sur le terrain avec les forces russes pour pouvoir constater... Ouais, embedded, ouais. C'était les tout débuts, mais ça n'avait pas été fait avant, les Russes n'auraient jamais fait ça, c'est parce que les Américains l'ont fait avant eux et l'ont fait dans la guerre en Irak en 91, qui se sont mis à le faire. Et là, tout récemment, on a Poutine qui parle du Wikipédia à la russe. C'est-à-dire, il ne veut plus, évidemment...
Et d'un Internet à la russe aussi.
Exactement. Donc, c'est toujours une espèce de réaction. Il considère que ce rebond, ce ping-pong est permanent.
Benoît Vidkin.
Parce que ce que dit Maxime Audinet et ce que dit Anne, ça va dans le même sens. C'est ce qu'il dit sur la construction des médias d'État à destination de l'étranger qui sont bâtis sur finalement le rejet plus que l'attraction. Ça rejoint la question que vous posiez de façon générale sur le succès de la diplomatie russe. Ce succès, il est en grande partie en miroir soit de nos propres manquements, soit de nos propres échecs, c'est-à-dire que la timidité, parlons là des Européens, mais aussi ces dernières années des Américains à l'étranger, c'est le pendant de la non-timidité des Russes à employer la force, la capacité des Russes à s'ingérer dans soit des pays, soit des dossiers qui ont été lâchés, soit par les Européens, soit par les Américains. En Syrie, c'est plus que frappant. On a le cas de 2013 et de la décision d'Obama de ne pas frapper malgré les lignes rouges posées, et tout comme on a cette année le retrait américain du nord de la Syrie. Donc à chaque fois, c'est en miroir, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est presque fantasmée, c'est-à-dire ce que nous, on a désinvesti, les Russes ont su l'investir.
Et d'ailleurs, les Russes investissent les paroles de Emmanuel Macron sur l'OTAN, dans The Economist, c'est-à-dire que ils ont dit, ce sont des paroles en or. Il faut rappeler effectivement qu'Emmanuel Macron a évoqué l'OTAN comme étant un cerveau mort d'une certaine façon, sans aucune puissance, et surtout trahi par la puissance américaine, en particulier dans le nord de la Syrie, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, évidemment, les Russes ont pensé que c'était une bonne occasion, et c'est ce qu'ils ont fait, de dire que on pouvait peut-être saluer cette initiative d'Emmanuel Macron.
Oui, enfin, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Macron est très critiqué ici en Occident. C'est pas encore c'est pas très bien perçu. Puisqu'on est dans cette semaine en train de célébrer cette chute du mur de Berlin d'il y a 30 ans, qui d'ailleurs, je le rappelle, je trouve beaucoup moins festive qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était les 20 ans. On fêtait, tout le monde était à Berlin, tous les chefs d'État de les grands de ce monde y étaient. 10 ans plus tard, c'est quand même plus compliqué. Ça, je pense que c'est intéressant à noter. Et effectivement, on peut se poser la question de où on en est dans les institutions nées de cette guerre froide. Et l'OTAN est l'institution la plus importante. Donc je comprends que Emmanuel Macron ait posé cette question. Et bien sûr que du côté russe, médiatiquement parlant, politiquement parlant, on va en profiter parce qu'ils sont toujours les premiers pour dénoncer la faiblesse, la fragilité
de l'Europe, par exemple,
des démocraties de l'Europe occidentale, bien sûr. Et ils se définissent toujours, comme l'a dit Benoît, en réaction et en miroir par rapport à cela.
Jean de Glignacy.
Alors, moi je diffère un tout petit peu sur ces analyses. D'abord, en ce qui concerne le soft power, bien sûr que effectivement la Russie a tendance à occuper des vides. Ça fait très longtemps qu'elle voulait développer son propre réseau de télévision, en France notamment, de radio. Il y a eu plusieurs tentatives. Elle s'est heurtée à des difficultés. Mais elle considère tout simplement que c'est, j'allais dire, l'apanage d'une grande puissance. Mm-hmm. Alors, dans les circonstances actuelles...
Et ça n'est pas la France avec TV5 Monde, France 24 et RFI qui peut la contester, en l'occurrence.
Mais en même temps, elle profite d'une baisse de popularité des modèles. On parle d'attractivité. Donc effectivement, elle ne cultive pas beaucoup l'attractivité, ou plus exactement, elle profite de la baisse d'attractivité de notre propre modèle. Parce que nos valeurs démocratiques, nos valeurs droits de l'homme, etc., malheureusement, subissent véritablement une baisse d'attractivité, parce qu'elles ont été le prétexte à de nombreuses ingérences, et de nombreux pays du tiers-monde considèrent qu'en fait, c'est du bidon, et que derrière, ça cache une volonté de...
La Chine en premier, qui n'est pas un pays du tiers-monde.
Oui. Alors, évidemment, la Russie se glisse dans la fente, si j'ose dire, et profite de tout cela, avec une idéologie qui en elle-même n'est pas très attractive, parce que l'identité nationale, tout ça, c'est très bien, mais c'est une idéologie à multiples facettes dont chacun peut faire son miel. Ça passe partout, mais c'est pas en même temps un élément... C'est pas le temps de l'Union soviétique, où la Russie était au sommet de son soft power, avec des partis communistes...
De son soft power, qui à l'époque était plutôt la grosse propagande. On n'appelait pas ça du soft power.
Mais ça marchait très bien.
Mm-hmm. Alors, ceci dit, c'est vrai que c'est à peu près la même chose, les mots diffèrent.
Jean de Glignacy.
Alors, sur l'OTAN maintenant, il ne faut pas se mettre dans un contexte où, en quelque sorte, ce qui ressortait, c'est là que j'ai une petite différence. Il semble qu'on déplore un peu que la France de Macron ait fait défaut à l'OTAN et affaiblit l'OTAN face à la Russie. La problématique me paraît quand même un peu particulière. Ça fait très longtemps que l'OTAN est considéré, notamment depuis son élargissement, par la Russie comme un ennemi, et l'OTAN lui rend bien. Donc ça, c'est le premier point. Donc normal qu'ils s'en réjouissent. Le deuxième point,
avec un chef d'état-major général des forces armées de Russie qui dit par exemple que les Occidentaux peuvent être considérés comme des agresseurs et des ennemis potentiels. Ça, on a bien compris que ça fait partie du discours.
Dans le document de stratégie générale que les Russes publient tous les 3-4 ans, c'est l'élargissement de l'OTAN qui est considéré comme le danger et le risque pour l'essentiel. Alors maintenant, il y a des Charles Leclerc qui croise à 150 km de Saint-Pétersbourg depuis la décision de Varsovie en 2014. Et donc, il y a des troupes de l'OTAN qui font une rotation et qui sont très près des frontières. Donc, nous sommes dans une phase d'hostilité. Et donc, ils sont contents, c'est assez légitime, de voir affaiblir ce qu'ils considèrent comme un ennemi.
Phase d'hostilité très étonnante, puisque ce midi, à Berlin, voici ce que disait le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.
Aujourd'hui, la Russie, emmenée par un ancien officier du KGB posté à Dresde, envahit ses voisins et réduit ses opposants politiques. Au moment où nous parlons, les autorités russes utilisent des raids policiers et des tortures contre les Tatars et les Ukrainiens de Crimée. En Tchétchénie, quiconque est considéré comme indésirable disparaît tout simplement.
Voici donc ce que disait Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, à Berlin ce midi. Non, mais simplement, c'est dans une cérémonie. Vous parliez tout à l'heure des 10 ans, des 20 ans ou des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Anne Niva, c'est quand même un discours assez musclé, en tout cas de la part des Américains.
Oui, enfin... Par rapport à ce que dit Trump, vous savez c'est faible. Hein.
Mais pas dans le même sens.
Non, voilà, pas dans le même sens. Mais donc, c'est toujours celui qui parle le plus fort qui gagne. Je pense que... Non, pour moi, c'est pas tout à fait... c'est pas du tout nouveau ce qu'il a dit. Et les Russes se gaussent éperdument de ce genre de commentaires. Au contraire, comme aujourd'hui, on vit dans une société mondiale où c'est le buzz médiatique qui compte, que l'on parle de la Russie, même en ces termes-là, scié à la Russie.
Benoît Vidkine.
Scié à la Russie, peut-être, mais ça, tout ça cache quand même un peu un vide du côté des Russes, c'est la capacité à proposer quelque chose. Ils ont des succès en miroir de nos échecs, ils se montrent en opposition à l'OTAN, mais sur l'essentiel des dossiers, ce qu'ils ont pour l'instant été capables d'obtenir, c'est surtout d'être une puissance négative. Et c'est là où la Syrie est un tournant, c'est là où, oui, si jamais sur le dossier syrien ils arrivent à construire quelque chose de valable, et notamment à construire quelque chose de valable dans la durée qui satisfasse leur allié Bachar al-Assad, on progresse, ceci dit, hein. Tout le monde était très sceptique au début de l'intervention russe. Ils accumulent quelques échecs, mais surtout des succès. Donc sur ce dossier, ils marquent des points. Et puis, le reste, moi je pense qu'il faut quand même le rappeler, parce que je pense que le dossier ukrainien, que chez nous on regarde d'un peu loin, comme quelque chose d'un peu exotique, est pour les Russes, oui, en fait bien plus important que le, oui, dossier syrien.
C'est ça, ouais.
C'est totalement existentialiste pour la Russie, parce que ce sont des systèmes proches, parce que c'est un voisin, et parce que, en termes émotionnels, il y a été investi infiniment plus en termes émotionnels et en termes de moyens. Il y a eu des soldats russes morts par centaines sur le terrain ukrainien, bien plus que ce qu'imaginait Moscou. Ça, en soi, c'est un échec, et ça n'est qu'un des échecs de la Russie sur ce dossier qui est... bien plus important que le dossier syrien.
Anne Iva, puis Jean-Louis Gnasty.
Je suis d'accord, je pense que le dossier ukrainien dont on parle très peu finalement aujourd'hui dans nos médias, parce qu'il a lassé malheureusement, est capital. C'est une tragédie ce qui se passe, ce qui s'est passé en Ukraine, et c'est un échec de la diplomatie russe finalement. Ces relations, et du coup les relations entre la Russie et l'Union européenne sont très difficiles à cause de ce qui s'est passé en 2014, pardon, en Ukraine. On est là dans une spirale d'incompréhension et de méfiance.
Et pourquoi c'est un échec justement?
Mais parce qu'aujourd'hui on ne sait plus où on en est.
Ouais.
Parce que le conflit est gelé, parce que ça n'est pas réglé.
Jean de Glignasty.
L'ex-ambassadeur qui est à côté de moi va nous raconter mieux que ça. Mais pour moi, c'est un écueil. Un échec et un écueil total.
Alors, première chose, dire que la politique, que la Russie est dans une position négative, ça veut dire, ça c'est le point de vue de Stoltenberg, hein, je suis désolé de le dire, c'est de l'OTAN. La Russie est vue comme une puissance positive avec un apport important par 95% de la population du monde. Tous les Arabes, tous les Africains font le pèlerinage en Russie, c'est les Occidentaux qui disent que c'est négatif. Quand on dit c'est négatif, ça veut dire que nous nous situons dans un affrontement Est-Ouest traditionnel. Donc je réagis sur le mot de négatif. En ce qui concerne l'Ukraine, je suis tout à fait d'accord, c'est fondamental, c'est la clé. C'est la clé de la pacification en Europe, c'est la clé même de la reprise du développement économique, parce qu'on avait des perspectives absolument considérables.
Bon, oui, même vont très mal, ces perspectives en
Europe. Alors, justement,
c'est bloqué.
Ah oui, les perspectives économiques, c'est complètement bloqué. Mais en revanche, il y a un processus diplomatique qui a commencé sur l'Ukraine, grâce à Zelensky, grâce à Macron, il faut le dire. Et donc ce processus qui est actuellement un peu en suspens, ça se passe pas aussi bien qu'on aurait pu l'espérer, mais ça se passe mieux que depuis 4 ans, et il y a un petit espoir quand même de débloquer la situation en Ukraine. C'est une nuance par rapport à ce qu'a dit Anne.
Oui, vous êtes un peu plus optimiste.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat qui se pose ce soir, la question, les Russes sont-ils les meilleurs stratèges? Alors, vous évoquiez, Benoît Vidkine, effectivement, les possibilités d'avoir forgé en particulier l'armée russe dans les combats, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Crimée ou que ce soit du côté du Proche-Orient. Il y a, je crois, 50 000 soldats, officiers qui sont passés du côté de la Syrie depuis maintenant quelques années et donc qui ont connu l'expérience du feu. Est-ce que vous pensez que cela, par exemple, cette expérience du feu, mais aussi la possibilité de vendre des armes, que ce soit à des pays comme la Turquie, où on a vu effectivement toute la question des S-400, ou dans d'autres pays, cette possibilité, puisque les Serbes se sont dotés aussi d'armes de ce type-là, cela donne aussi un pouvoir de guerre aussi aux Russes.
Ah oui, alors j'ignorais le chiffre de 50 000, il est intéressant.
Non, je ne sais pas si c'est vrai, hein. Non, mais j'ai lu ça dans une documentation.
Oui, il semble assez réaliste, et par ailleurs les Russes en plus n'ont jamais fait mystère, dès le début de leur intervention en Syrie, de la valeur à la fois de tests et de grandes foires aux armements et de démonstrations à d'éventuels clients. Donc oui, bien sûr, alors ça a été dit plus tôt, la capacité militaire russe, elle n'est pas infinie, elle a des faiblesses, mais elle est importante. On parlait de la diplomatie, là aussi, il y a des forces russes, il y a un savoir-faire qui est ancien, il y a un discours qui est, à quelques exceptions près, assez constant. C'est-à-dire que, alors on entendait au tout début, vous ouvriez l'émission avec cette voix rauque et totalement reconnaissable de Sergueï Lavrov. Bref. Il y a cette sensation qui parle aux alliés de la Russie, mais pas seulement, cette idée que la politique étrangère russe suit une certaine continuité et subit beaucoup moins le règne de l'immédiateté, de l'émotion, de l'opinion publique, puisque l'opinion publique a du mal à exister en Russie et elle a encore plus de mal sur les sujets de politique étrangère. Et dans les constantes, il y a aussi ce message qui est martelé de « nous sommes contre l'ingérence, nous sommes pour la souveraineté des États ». Alors Jean de Glignasti disait ça, c'est applaudi par 95% de la planète, peut-être, mais il y a une part de fantasme, parce que les endroits où ça s'applique, il y a assez peu d'endroits finalement où ça s'applique, c'est-à-dire que dans ce que les Russes appellent leur étranger proche, non, la souveraineté des États, c'est pas précisément ce qu'ils soutiennent, et de même que la non-ingérence. Et ensuite, l'essentiel des terres lointaines, y compris l'Afrique, la Russie a tout simplement pas grand-chose à y proposer. Mais ce savoir-faire ancien et ces avantages russes travaillés dans la durée depuis le retour de Vladimir Poutine, associé à cette force militaire qui a été en partie reconstruite, bien sûr, c'est un avantage immense.
Ouais. La
reconstruction de la force militaire russe, je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi efficace que cela, parce que ce qu'on constate quand même aussi, si on reparle de la Syrie, qui est quand même le conflit en cours, et chacun sait que, et la France n'y coupe pas, que c'est dans des bonnes guerres que nos armées améliorent leurs équipements. Tout le monde fait ça, et c'est tout à fait normal. Donc les Russes aussi. Mais là, pour ce qui est de la Syrie, ils ont eu recours quand même, et ça, je crois qu'il faut le noter, à des mercenaires très nombreux,
le corps slave,
par le biais de sociétés militaires privées. Oui, et ça, c'est quand même un pari relativement dangereux. Et ça montre, à mon sens, leur fragilité. Donc la victoire russe en Syrie, moi, je la modulerai un peu, parce on va pas se poser la question ce soir, mais enfin, il faut quand même évoquer. Moi, je pense qu'on peut aussi se poser la question si c'est pas plutôt une victoire iranienne en Syrie aujourd'hui. Donc tout cela est très fragile, hein. Mettre d'accord Damas et Ankara, c'est pas évident.
D'autant que Jean de Glignasti, effectivement, il y a des voix, et en particulier celle du président de la Cour des comptes russe, Alexei Koudrine, qui dit, tout compte fait, tout ça pèse beaucoup sur le budget russe, les dépenses militaires sont trop élevées, ce n'est pas le nombre de missiles et de tanks qui va définir le destin de notre pays, dit-il, par exemple. Tout ça, ça veut dire aussi que, y compris dans la sphère de gouvernement russe, il y a des tensions sur l'argent qu'il est nécessaire pour pouvoir faire la guerre, justement.
Oui. Il y a en Russie le débat qu'il y a en Allemagne, notre président lui-même a soulevé concernant la règle des 3% sur le budget, c'est-à-dire est-ce que, compte tenu de la stagnation économique, on relance pas un peu l'économie plutôt que de faire des dépenses improductives ou de respecter des plafonds. Ce débat, on le trouve un peu partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a une question de relance globale, et Koudrine participe de ce débat avec une touche et une nuance évidemment un peu russe, c'est-à-dire c'est vrai que les dépenses militaires ont pesé très lourd sur le budget russe, moins maintenant, parce que comme chacun sait, le CIPRI dit que le budget de défense russe est inférieur au budget français maintenant. Et ce qui d'ailleurs me conduit à prouver ce que dit Anne Iva, c'est que effectivement, d'abord la reconstitution de l'armée russe, elle est partielle et pas totale, et que effectivement ses moyens sont relativement limités.
Et dans ces conditions-là, Maxime Audinet, comment fait la Russie pour financer justement ce soft power que vous décrivez? Parce que on dit tout de même que la situation économique n'est pas si flamboyante que cela en Russie, que évidemment ces aventures militaires à l'extérieur coûtent cher, et donc comment fait-elle pour pouvoir payer ses télévisions, ses centres culturels, etc., etc.
Alors c'est intéressant que vous parliez du budget militaire en baisse parce que il se trouve que pour l'année 2020, le budget russe prévoit une augmentation du budget de son appareil médiatique international et notamment de RT. En particulier en vue de l'ouverture d'une chaîne de télévision en allemand. Ils ont déjà leur site, mais l'idée est de créer la chaîne RT Deutsch. Ce qui montre aussi que l'investissement de la Russie dans son appareil médiatique est quasiment sanctuarisé. Et je dirais même que plus on parle de ces médias en Occident, plus on en fait un objet de crainte, de plus on parfois même on surestime,
on surestime
leur rôle, plus disons la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian,
qui est considérée comme une des grandes figures, y compris par Forbes, de la puissance internationale,
et peut justifier son rôle auprès de l'administration présidentielle. Ça concerne uniquement les médias parce que la situation de la diplomatie culturelle est beaucoup plus critique et je dirais même que dans la plupart des cas ça relève de la façade. En particulier on parle beaucoup du retour entre guillemets de la Russie en Afrique. Si on regarde sa présence culturelle, la plupart des centres culturels russes sur ce continent sont assez dysfonctionnel et hérité de la période soviétique.
Oui, il faut dire d'ailleurs, Benoît Vidkine, que l'Union soviétique avait quitté la Russie très rapidement après la chute du mur, qu'ils avaient abandonné 9 ambassades en Afrique, 4 consulats, 13 centres culturels, et que malgré justement ce qui s'était passé à Sotchi très récemment, donc cette grande rencontre avec les pays africains, on peut pas dire que ce réinvestissement soit massif.
Il est à peu de frais, c'est-à-dire qu'il y a effectivement là aussi l'arme des mercenaires qui est utilisée, oui, qui présente un double avantage, c'est de coûter pas grand-chose puisque ces sociétés sont censées en quelque sorte s'autofinancer, c'est ce qu'on voit en Centrafrique où elles contrôlent une partie de l'extraction minière. Et puis quand il y a des morts, surtout, on n'a pas de compte à rendre. Ça n'est pas uniquement ça, c'est aussi les technologies.
On n'a pas les cercueils de plomb de l'Afghanistan, par exemple. C'était un peu.
On a des cercueils de plomb qui sont encore plus discrets quand ils reviennent que ceux de l'Afghanistan. Ouais. On a aussi les outils de déstabilisation médiatique, politique. Mais oui, hormis l'Afrique du Sud et surtout le Maghreb, l'implantation russe en Afrique, elle est faible. Je voudrais juste rajouter un tout petit mot pour nuancer ce que vous disiez sur et l'économie et Alexei Koudrine. L'économie, vous disiez, alors je ne sais plus, elle n'est pas flamboyante. Non, pour être précis et pour que les auditeurs s'y retrouvent parfaitement, l'économie, elle est même franchement mauvaise. Ça fait 11 ans précisément que le pouvoir d'achat des ménages russes baisse. Et ça, alors, quand il y a eu l'engouement, l'euphorie même post-Crimée, on était capable de l'accepter, mais ça fait un moment que c'est plus le cas. Et alors, les beaux missiles à la télé russe qui partent en Syrie, ça a marché quelques mois, mais pas plus. Et un mot, Koudrine, en réalité, le vrai problème, c'est que ce débat, je suis désolé, monsieur de Guignasti, non, il n'existe pas un quart de seconde. Il y a 3 personnes à tout casser à Moscou qui peuvent se permettre de soulever ces questions-là, dont Alexei Koudrine, mais vraiment pas plus. Et Alexei Koudrine, de bonne source, quand il va voir, alors maintenant il n'essaye plus, mais après 2014, quand la situation était particulièrement mauvaise du fait des sanctions, quand il allait voir Poutine en disant « Cher président Vladimirovitch, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose sur ce flanc-là », Poutine lui disait « Alexei, tu es gentil, tu es un comptable, alors compte ». Poutine et les hommes à épaulettes, ce qu'on appelle les Siloviki, décident seuls.
Ouais. Anne Niva, avant que...
Oui, juste avant de quitter le studio, je voudrais dire un mot sur cette... Effectivement, on parle beaucoup de cette puissance projetée de la Russie, et effectivement, on vient de tous expliquer à notre façon qu'elle existe. Mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est quand même le fait que tout ne repose que sur un seul homme, qui est Vladimirovitch Poutine. C'est-à-dire, et il y a des élections prévues pour 2024, et en fait, ça, c'est une faiblesse. Et pour moi, le fait que Poutine n'ait pas encore désigné à qui donner le pouvoir, ce que Yeltsin avait fait finalement, puisqu'il l'avait désigné lui, nous fait rentrer dans une zone de grosse turbulence. Ce régime que moi je qualifierais de personocratie est véritablement le fait que Poutine soit autant admiré pour tout ce que l'on vient de dire, mais également autant craint, et que tout dépende de lui, va nous amener vers des moments qu'on ne connaît pas encore, mais qui font que cette isolation, là, aujourd'hui, du régime et des élites, par rapport quand même aux manifestations, on n'en a pas dit un mot, qui ont eu lieu tout l'été jusqu'aux élections régionales, etc. Il y a eu quand même, alors qu'on disait que l'opposition en Russie était morte, etc., la rue est retournée, est revenue dehors depuis 2011-2012, alors qu'on pensait que ça n'était plus possible. Donc la société russe n'est pas aussi immobile qu'elle n'y paraît.
On le sait en vous lisant d'ailleurs, en lisant votre Incontinent derrière Poutine, puisque vous avez fait un long chemin depuis Vladimirovsk.
Incontinent derrière Poutine, point d'interrogation.
Oui, j'ai compris, bien sûr. Bah oui, mais on peut pas le dire à la radio, point d'interrogation, il faut le dire comme vous venez de le faire. Merci beaucoup, Anne Niva. Jean de Glignasti.
Je réponds à la question du débat, parce qu'elle est très importante. Il y a, et là je suis pas d'accord avec Benoît Vitkine, il y a un vrai débat en Russie, avec un certain nombre de personnalités. C'est un débat à la russe. C'est-à-dire que c'est le président qui va trancher à un moment. La situation russe est à certains égards assez comparable à la situation allemande, c'est-à-dire que la balance des paiements est excédentaire, les budgets sont sans déficit, les fonds de réserve sont pléthoriques, et il y a en effet, à l'intérieur du gouvernement, d'ailleurs pas tellement le gouvernement, pas tellement le ministre des Finances, même Madame Niaboulina, qui est la directrice de la Banque Centrale, s'interroge, et il y a un vrai débat au sein des élites russes, est-ce qu'on relance pas la consommation plutôt que de continuer à économiser? C'est exactement le débat qu'il y a en Allemagne.
Benoît Vitkine, j'aurais voulu avoir votre réaction en tant que correspondant du Monde sur ce qu'a suggéré Emmanuel Macron en disant, bah, maintenant c'est au tour de la Russie de comprendre que entre la Chine et l'Europe, il va falloir que les Russes choisissent, ce qui est une drôle de manière d'envisager les choses. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette déclaration selon laquelle la Russie aura du mal à reconstruire sa puissance et que seul ce sera très difficile et qu'on leur a accordé quelques erreurs de notre part pour pouvoir leur donner un petit peu de pouvoir, mais qu'aujourd'hui il faudrait qu'elles choisissent l'Europe justement. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'Emmanuel Macron?
C'est pas réellement une proposition. Alors j'ai vu effectivement son interview, il dit c'est un horizon à 10 ou 20 ans pour la Russie. Et effectivement, alors oui, il y a évidemment du débat en Russie, et ce débat il existe aussi sur le sujet chinois, effectivement, parce que la Chine a été beaucoup utilisée pour être très démonstrative vis-à-vis de l'Occident et montrer on n'a pas besoin de vous et on peut vous tourner le dos. Sauf que la Russie, qui est déjà dans un rapport de partenaire junior à partenaire senior vis-à-vis de la Russie, de façon assez naturelle pour ce qui est de la puissance, en plus en étant demandeuse, on voit à peu près comment fonctionne dans quelques domaines que ce soit les bases d'une négociation, en plus en se plaçant dans cette situation de demandeuse, à savoir c'est les Russes qui ont besoin absolument de l'amitié, des partenariats avec les Chinois, tout ça fait que cette position de faiblesse est encore accrue. Alors ensuite, de là à trancher ce débat, vous savez que c'est le débat qui existe en Russie depuis
bien
des siècles.
Hein, on parlait de l'accès aux mers chaudes, on pourrait parler effectivement de savoir si la Russie est européenne ou plutôt une puissance asiatique. Très brièvement, Jean Dugliasti.
C'est la première fois depuis 4-5 ans que je vois apparaître dans la presse russe des articles disant « Ah ben les Chinois, ils exagèrent, ils sont en train de racheter la moitié des terres de Sibérie ». Et donc, pour la première fois, on a laissé s'exprimer dans la presse une certaine inquiétude sur l'omniprésence chinoise.
Merci à vous, merci à tous les quatre. Anne Niva, Donc, journaliste, grand reporter, autrice de Un continent derrière Poutine avec un point d'interrogation, c'est au seuil. Benoît Vitkine, correspondant du Monde à Moscou, prix Albert Londres 2019. Jean de Glignasti, diplomate, ancien ambassadeur, auteur de La diplomatie au péril des valeurs aux éditions de l'Inventaire. Et Maxime Audinet, dont on attendra avec beaucoup d'impatience la thèse sur le soft power russe. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Louise André à la technique, Alexandre Dang à la vidéo, Swat Boukorsa et à la réalisation, Anna Bui. Rebonsoir Arnaud Laporte.
Bonsoir à nouveau, Emmanuel Laurentin.
Donc vous allez nous parler de cinéma.
Cinéma, oui, on va.
Et un peu de littérature aussi.
Ouais, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que le livre d'Éric Neuf, primé par le Renaud de Hessé, soit de la littérature. On va en parler. On regarde quand même de la prise de parole d'Adèle Haenel. On parlera aussi d'Adults in the Room de Costa Gavras et de J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. On n'oublie pas tout à fait le cinéma. Lundi, dans le temps du débat, Emmanuel Laurent.
À l'ordre du jour, une émission sur les opérations militaires extérieures, non pas de la Russie, mais de la France. Puisque le président de la République, lundi, inaugurera un monument aux victimes, aux soldats victimes des opérations extérieures de la France.
Merci beaucoup, Emmanuel. On vous retrouve lundi.